Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le 13e Forum économique islamique mondial, ou WIF, a produit 16 protocoles d'accord. La capacité de médiation de l'Indonésie en Afghanistan. Sel Sabang devrait encourager l'industrie du tourisme et de la pêche à Sabang. 40 futurs investisseurs sont intéressés au développement du lac Toba. La construction de l'hôpital indonésien au Myanmar réunit divers ethnies. L'Indonésie cible les touristes russes à l'exposition de Halal Moscou 2017. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le 13e Forum économique islamique mondial, WIF, s'est tenu mardi 21 novembre à Kuching, Sarawak, la Malaisie, produit 16 mémorandums d'accord qui atteignent environ 2,5 milliards de dollars américains. Cette valeur est l'un des plus grands dans l'histoire. Ce forum a été participé par 2500 participants, y compris les leaders mondiaux et les hommes d'affaires. L'accord, entre autres, vient d'organisations dans le domaine de la technologie, de la nourriture halal et du secteur de l'énergie. Au cours des 5 dernières années, WIF a facilité des accords commerciaux de divers secteurs industriels entre des pays musulmans et non musulmans avec la réalisation d'environ 13 milliards de dollars américains. Le représentant du président de l'Indonésie, le ministre de la Planification du Développement National et le président de Bappenas, M. Bambang Brojonegoro, a déclaré que l'Indonésie utiliserait le potentiel financier islamique pour soutenir le développement économique national.
To accelerate economic growth in the middle of numerous global challenges, it is vital for economies to constantly search for new area of growth.
Pour accélérer la croissance économique au milieu de nombreux défis mondiaux, il est important pour les pays de continuer à achever de nouveaux domaines de croissance. L'intérêt pour le financement de la charia par les pays à majorité musulmane et le centre financier international augmente rapidement. Le modèle de financement est de plus en plus reconnu, non seulement comme un modèle d'investissement social responsable, ethnique et durable. Le financement islamique est considéré comme l'approche la plus sûre du système financier mondial. En tant que pays avec la plus grande population musulmane, l'Indonésie peut exploiter le potentiel de la finance islamique pour soutenir le développement économique national. On souhaite que la mise en œuvre de WIF durablement puisse devenir une plateforme commerciale de classe mondiale qui offre des opportunités commerciales dans le monde musulman. WIF a été mise en œuvre en Indonésie, Kazakhstan, Koweït, Pakistan et la Grande-Bretagne, y compris aux Émirats Arabes Unis, dans le but de renforcer les chances de partenariat et de connaissances communautaires entre la communauté musulmane et non musulmane dans le monde entier à travers la même langue déjà faite. Le président indonésien Joko Widodo estime que l'Indonésie a une capacité suffisante pour participer à résoudre et à la médiation du conflit en Afghanistan. Il est aidé par le président Jokowi après avoir accueilli une délégation du Conseil supérieur de la paix afghane à Bogor mardi. Selon lui, l'Indonésie est devenue un modèle pour les pratiques islamiques modérées tolérantes. Par conséquent, l'Indonésie est prête à aider l'Afghanistan à résoudre le conflit pour créer la paix dans la région. À cette fin, l'Indonésie facilitera 35 membres de la délégation du Conseil supérieur de la paix d'Afghanistan de renforcer des organisations de masse islamique, notamment Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah. Le chef d'État a accueilli la délégation de l'Afghanistan dirigée par Muhammad Khalil, accompagné du vice-président Yusuf Kala. Le ministre indonésien du Tourisme, Arif Yahya, a déclaré après la mise en œuvre de Sel Sabang, il y aurait une continuité d'activité. On souhaite que ces activités puissent stimuler l'industrie du tourisme et de la pêche à Sabang. Selon M. Arif Yahya, il y aura deux industries qui seront encouragées après l'organisation de cette activité maritime, à savoir l'industrie du tourisme et de la pêche. Dans le secteur du tourisme, deux activités marines seront tenues régulièrement à Sabang. Cette activité amènerait des invités étrangers, tandis que l'industrie de la pêche y sera fait le développement de cases flottantes pour les pêcheurs à Pulau V. Et cela a été dit par le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, à Sabang mardi, après avoir dirigé une réunion finale de Sel Sabang. Selon lui, la durabilité de Sel Sabang est la plus importante parce qu'elle peut encourager l'amélioration économique. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'agent exécutif de l'autorité du lac Toba a déclaré qu'il y avait au moins 40 futurs investisseurs qui seront intéressés au développement de la zone touristique du lac Toba, Sumatra du Nord, sous la forme d'hôtels et de centres de villégiature, des croisières ainsi que des infrastructures. Le directeur de finances de la communication publique, M. Faisal, a déclaré des dizaines d'investissements potentiels antérieurs et étrangers qui avaient fait le rapprochement. Des investisseurs de Singapour et de Chine ont montré plus leur intérêt. Il a été dit par Faisal lors de la visite des médias au lac Toba Parapat mardi. Les possibilités d'investissement des centres de villégiature et des hôtels intégrés qui sont offerts, il y a trois sites, tels que Sibisa, d'une superficie de 602 hectares, Humbang Hasudutan, qui sera transformé en jardin fleuri de 1000 hectares, et la zone Tapanuli du Nord de 247 hectares. Les investisseurs nationaux sont également en train de développer sérieusement le lac Toba comme l'une des zones de 10 nouvelles de Bali. L'hôpital de l'Indonésie en Mrauku, ou Rakhine, en Myanmar, porte un message de paix et l'unité de divers groupes ethniques au Myanmar. Le comité médical d'urgence le voit lors de la pose de la première pierre de RSI récemment. Un millier de personnes se sont rencontrées dans RSI lors de cet événement. Ils étaient de différentes ethnies et religions, sont unis pacifiquement. C'est ce qu'a déclaré le gérant de l'hôpital de l'Indonésie, Nur Ihwan Abadi, au Myanmar. Il est très visible dans mes chances de paix du programme de développement de RSI. Il a expliqué que le développement du RSI à Rakhine faisait partie de la diplomatie humanitaire qui a été faite par Mercy depuis la construction de RSI à Gaza en Palestine. L'Indonésie cible des tourismes de secteur du tourisme halal à travers le 8e Salon international de l'industrie halal Moscou Halal Expo 2017, tenu à Moscou récemment. La destination touristique halal promue au public russe sont entre autres la voile de Sabang et le festival de Rapai à Aceh. tour de shopping et attractions touristiques de Mille Îles à Jakarta, ainsi que des excursions à la première plage halal en Indonésie, située à Banyuwangi, Java Est. C'est ce qu'a affirmé la première secrétaire chargée des informations socioculturelles de l'ambassade d'Indonésie à Moscou, Enjai Diana, à Antara, Londres, lundi. Le chef d'équipe pour accélérer le développement du tourisme halal du ministère du Tourisme de l'Indonésie, M. Rianto Sofian, dans son discours lors de l'ouverture de l'exposition, a déclaré que le développement de l'industrie halal n'est plus concentré sur les produits alimentaires, mais il a évolué dans le secteur bancaire et tourisme. Rianto a déclaré que l'Indonésie est prête à accueillir l'arrivée des touristes musulmans russes et d'autres touristes avec une variété de destinations touristiques attrayantes, ayant du tourisme nautique, des plages, la nature, l'art, la culture, la cuisine, y compris le tourisme halal. L'Indonésie et la Russie ont un grand potentiel pour le tourisme halal. Pour cela, il faut une coopération concrète entre les hommes d'affaires de l'industrie du tourisme halal des deux pays. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Consensus au Zimbabwe ». Bien que non reconnu comme un coup d'État, l'armée zimbabwéenne a cherché mardi 14 novembre à renverser le président Robert Mugabe. Cela a été causé par les actions de Mugabe qui a rejeté le vice-président Emmerson Mnangagwa qui vise à faciliter la montée de sa femme, Grace, pour devenir la présidente. Robert Mugabe était le héros qui a combattu pour la liberté du Zimbabwe de l'Angleterre en 1980. Avant l'indépendance, le Zimbabwe s'appelait la Rhodésie. Sa lutte a amené Mugabe au pouvoir en tant que premier ministre. Dans les premières années de sa direction, le Zimbabwe était un pays en développement prospère avec des produits agricoles abondants. Mais la mauvaise gestion, notamment dans l'agriculture, a fait ce pays n'est plus le grenier alimentaire. Pour diviser la terre aux Noirs, Mugabe a imposé la loi de réforme agraire extrême en forçant les personnes blanches à donner leur terre. L'adagium qui a dit que le pouvoir apporte la stupidité est prouvé dans le cas de Mugabe. Il a commencé à perdre son attitude démocratique dans les années 90 et à museler ses adversaires politiques. Il n'est plus satisfait du poste de premier ministre, Mugabe a changé la constitution et est devenu président. Dans l'ère des années 2000 jusqu'à maintenant, la situation du Zimbabwe est de plus en plus plongée dans les difficultés économiques avec l'inflation très élevée. À l'âge de 93 ans, après 37 ans au pouvoir, Mugabe est prêt à faire des compromis et prêt à démissionner. S'il a refusé de démissionner, le choix de baisser Mugabe est de forcer ou empêcher. Le parti de soutien de Mugabe, ZANU, a retiré son soutien et l'impeachment sera fait immédiatement si Mugabe insiste. L'armée a également préparé le vice-président Emmerson Mnangagwa pour remplacer. Mais le désir de Mugabe de placer sa femme Grace en tant que président a créé un nouveau problème dans le pays. En tant que pays ami, l'Indonésie ne s'attend pas les fusions de sang au changement de pouvoir au Zimbabwe. Mugabe doit faire la succession de leadership plus démocratique au Zimbabwe. Il aura toujours l'honneur d'être un héros qui libère le pays du colonialisme. C'est le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Serge, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons aujourd'hui avec l'événement. Le président américain John F. Kennedy a été abattu lors d'une visite à Dallas, Texas, le 22 novembre 1963. John Fitzgerald Kennedy, souvent appelé John F. Kennedy, est le 35e président aux États-Unis. En 1960, il a été élu président des États-Unis et le deuxième plus jeune après Theodore Roosevelt à la présidence. Kennedy est devenu président après l'inauguration le 20 janvier 1961. Il est mort à une visite à Dallas le 22 novembre 1963. Le 25 novembre 1963, ses restes ont été enterrés à Arlington, Washington, D.C. L'autre information est sur Margaret Thatcher a annoncé sa démission en tant que Premier ministre de la Grande-Bretagne. Margaret Hilda Robert Baron Thatcher, née le 13 octobre 1925 à Grantham et morte le 8 avril 2013 à Londres, est une femme d'État britannique. Elle est la première femme à diriger le Parti conservateur de 1975 à 1990. Elle est également la première femme à occuper les fonctions de Premier ministre du Royaume-Uni du 4 mai 1979 au 28 novembre 1990. Arrivée au pouvoir dans un pays en situation d'instabilité, Margaret Thatcher en redresse l'économie en mettant en place une série de réformes radicales. Remportant 3 élections générales consécutives, elle effectue le plus long mandat ininterrompu de Premier ministre au Royaume-Uni depuis Robert Jenkinson et est considérée comme étant la plus renommée des leaders politiques britanniques depuis Winston Churchill. Attachée à ses convictions chrétiennes, méthodistes, conservatrices et libérales, invoquant la souveraineté britannique, la protection de l'intérêt de ses administrés et les principes de droit, elle mène une politique étrangère marquée par l'opposition à l'URSS. La promotion de l'atlantisme, la guerre des Malouines en 1982 et la promotion d'une Europe libre et sanguine au sein de la communauté économique européenne. Sa politique économique, fortement influencée par les idées issues du libéralisme économique, se distingue par l'importance de la privatisation, la baisse des impôts directs, la maîtrise de l'inflation et du déficit public, ainsi que par l'affaiblissement des syndicats. Elle s'accompagne d'une hausse puis d'une baisse du chômage, d'un accroissement des inégalités économiques, d'une augmentation des impôts indirects et prélèvements obligatoires. L'ensemble de ses politiques, et notamment sa politique économique libérale, est connue sous le nom de Thatcherisme. Margaret Thatcher est l'une des figures politiques britanniques à la fois les plus admirées et les plus détestées. Le surnom de « Dame de fer » que le journal « L'Étoile rouge », organe de l'armée soviétique, lui décerne en 1976 dans le but de stigmatiser son anticommunisme, symbolise sa fermeté face aux grévistes de la faim de l'IRA provisoire en 1981. Ou aux mineurs grévistes en 1984-1985 et se répandra dans le monde entier. Elle reste associée à la révolution conservatrice des années 1980. En effet, l'influence de son passage au gouvernement du Royaume-Uni est souvent qualifiée de révolution sur les plans politiques, idéologiques et économiques. Au-delà des conservateurs, elle a influencé une partie des travaillistes, notamment Tony Blair. Nous finissons l'histoire du jour avec l'événement. Angela Merkel est élue devenue la première femme chancelière allemande le 22 novembre 2005. En tant que présidente du Parti de l'Union chrétienne démocrate ou CDU, elle a également déguisé la coalition au Parlement allemand avec l'Union chrétienne sociale CSU et le Parti libéral démocrate qui a été formé après la mise en œuvre de l'élection fédérale de 2009. Elle est la première femme chancelière de l'Allemagne et le premier ancien citoyen de la République démocratique allemande qui a dirigé l'Allemagne après la réunification de l'Allemagne. Elle est également la première femme à diriger l'Allemagne depuis que le pays est devenu un État-nation moderne en 1871. Le 1er janvier 2007, elle est devenue la deuxième femme en sa qualité de présidente du G20 après Margaret Thatcher. C'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Secrétaire, voici donc la mise au point sur l'environnement et pour le titre LIPI lance l'indice de santé des récifs coralliens. L'Institut indonésien des sciences LIPI par le Centre de recherche océanographique a lancé l'indice de santé des récifs coralliens en Indonésie. Cet indice devient une norme importante pour la gestion des récifs coralliens appartenant à l'Indonésie, le programme paléarchipélagique du monde. Le chef par intérim de LIPI, Bambang Subianto à Jakarta, a déclaré que, à travers cet indice, on peut vérifier si l'écosystème des récifs coralliens en Indonésie est en bonne santé ou non. Seuls quelques pays dans le monde, y compris l'Indonésie, ont déjà un indice de santé des récifs coralliens. Il expliquait que l'indice de santé des récifs coralliens est établi sur la base des données et de l'expérience accumulée possédée par LIPI depuis des années dans le domaine de la recherche et de la surveillance des récifs coralliens dans presque toutes les zones d'Indonésie. Pendant ce temps, Dirham Shah, directeur du Centre de recherche océanographique de LIPI, a déclaré que l'indice était basé sur des données collectées de manière intensive par le Centre de recherche océanographique il y a plus de 20 ans. À cette époque, à savoir en 1999, on a commencé le programme de réhabilitation et de gestion des récifs coralliens. En 2007, LIPI a chargé de poursuivre le programme de réhabilitation et de gestion des récifs coralliens de la troisième phase qui se terminera jusqu'en décembre 2020. Ce programme sera plus coloré par des activités de renforcement des capacités institutionnelles dans les domaines de la recherche et de la surveillance des écosystèmes côtiers, à savoir les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves, ainsi que la capacité de gestion des données et de l'information, tant au niveau national et régional. Ce programme est financé par la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial. Selon Dirham Shah, les résultats obtenus du programme de réhabilitation et de gestion des récifs coralliens de la première phase à la troisième phase sont maintenant utilisés par les parties prenantes. Ces utilisations sont entre autres la mise à jour des données et des informations sur la condition de santé des récifs coralliens et des herbiers marins dans les eaux de l'Indonésie chaque année. En plus du lancement de l'indice des récifs coralliens indonésiens, lancement de divers produits de recherche de l'Institut de recherche océanographique indonésien est complété par lancement de trois livres intitulés « Mangrove en Indonésie »,« Absorption du carbone » et « 5 décennies de LIPI à la baie de Jakarta ». Le livre est écrit par les chercheurs du Centre de recherche océanographique de LIPI sont le résultat de recherches menées par le LIPI au cours des dernières décennies. Une autre réalisation importante qui fera partie de cette activité est la reconnaissance du Centre de recherche océanographique de LIPI en tant qu'institution de certification professionnelle autorisée à certifier la compétence dans le domaine de l'évaluateur de la condition des citoyens et d'autres écosystèmes liés aux activités du programme de réhabilitation et de gestion des récifs coralliens. Le don du certificat de l'agence de certification professionnelle du Centre de recherche océanographique de l'IPI, dirigé par le président de l'Agence nationale pour la certification professionnelle au chef de l'IPI. Serviteurs, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Le 13e Forum économique islamique mondial, WIF, s'est tenu mardi 21 novembre à Kuching, Sarawak, la Malaisie, produit 16 mémorandums d'accord qui atteignent environ 2,5 milliards de dollars américains. Cette valeur est l'un des plus grands dans l'histoire. Ce forum a été participé par 2500 participants, y compris les leaders mondiaux et les hommes d'affaires. L'accord, entre autres, vient d'organisations dans le domaine de la technologie, de la nourriture halal et du secteur de l'énergie. Au cours des 5 dernières années, WIF a facilité des accords commerciaux de divers secteurs industriels entre des pays musulmans et non musulmans avec la réalisation d'environ 13 milliards de dollars américains. Le représentant du président de l'Indonésie, le ministre de la Planification du Développement National et le président de Bappenas, M. Bambang Brojonegoro, a déclaré que l'Indonésie utiliserait le potentiel financier islamique pour soutenir le développement économique national.
To accelerate economic growth in the middle of numerous global challenges, it is vital for economies to constantly search for new area of growth.
Pour accélérer la croissance économique au milieu de nombreux défis mondiaux, il est important pour les pays de continuer à achever de nouveaux domaines de croissance. L'intérêt pour le financement de la charia par les pays à majorité musulmane et le centre financier international augmente rapidement. Le modèle de financement est de plus en plus reconnu non seulement comme un modèle d'investissement social responsable, ethnique et durable. Le financement islamique est considéré comme l'approche la plus sûre du système financier mondial. En tant que pays avec la plus grande population musulmane, l'Indonésie peut exploiter le potentiel de la finance islamique pour soutenir le développement économique national. On souhaite que la mise en œuvre de WIF durablement puisse devenir une plateforme commerciale de classe mondiale qui offre des opportunités commerciales dans le monde musulman. WIF a été mise en œuvre en Indonésie, Kazakhstan, Koweït, Pakistan et la Grande-Bretagne, y compris aux Émirats Arabes Unis, dans le but de renforcer les chances de partenariat et de connaissances communautaires entre la communauté musulmane et non musulmane dans le monde entier à travers la même langue déjà faite. Le président indonésien Joko Widodo estime que l'Indonésie a une capacité suffisante pour participer à résoudre et à la médiation du conflit en Afghanistan. Il est aidé par le président Jokowi après avoir accueilli une délégation du Conseil supérieur de la paix afghane à Bogor mardi. Selon lui, l'Indonésie est devenue un modèle pour les pratiques islamiques modérées et tolérantes. Par conséquent, l'Indonésie est prête à aider l'Afghanistan à résoudre le conflit pour créer la paix dans la région. À cette fin, l'Indonésie facilitera 35 membres de la délégation du Conseil supérieur de la paix d'Afghanistan de renforcer des organisations de masse islamique, notamment Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah. Le chef d'État a accueilli la délégation de l'Afghanistan dirigée par Muhammad Khalil, accompagné du vice-président Yusuf Kala. Le ministre indonésien du Tourisme, Arif Yahya, a déclaré après la mise en œuvre de Sel Sabang, il y aurait une continuité d'activité. On souhaite que ces activités puissent stimuler l'industrie du tourisme et de la pêche à Sabang. Selon M. Arif Yahya, il y aura deux industries qui seront encouragées après l'organisation de cette activité maritime, à savoir l'industrie du tourisme et de la pêche. Dans le secteur du tourisme, deux activités marines seront tenues régulièrement à Sabang. Cette activité amènerait des invités étrangers, tandis que l'industrie de la pêche Isaac a fait le développement de cases flottantes pour les pêcheurs à Pulauvé. Et cela a été dit par le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, à Sabang mardi, après avoir dirigé une réunion finale de CEL Sabang. Selon lui, la durabilité de CEL Sabang est la plus importante parce qu'elle peut encourager l'amélioration économique. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'agent exécutif de l'autorité du lac Toba a déclaré qu'il y avait au moins 40 futurs investisseurs qui seront intéressés au développement de la zone touristique du lac Toba, Sumatra du Nord, sous la forme d'hôtels et de centres de villégiature, des croisières ainsi que des infrastructures. Le directeur de finance de la communication publique, M. Faisal, a déclaré des dizaines d'investissements potentiels antérieurs et étrangers qui avaient fait le rapprochement des investisseurs de Singapour et de Chine ont montré plus leur intérêt. Il a été dit par Faisal lors de la visite des médias au lac Toba par rapport mardi. Les possibilités d'investissement des centres de villégiature et des hôtels intégrés qui sont offerts, il y a trois sites, tels que Sibisa, d'une superficie de 602 hectares, Humbang Hasudutan, qui sera transformé en jardin fleuri de 1000 hectares, et la zone Tapanuli du Nord de 247 hectares. Les investisseurs nationaux sont également en train de développer sérieusement le lac Toba comme l'une des zones de 10 nouvelles de Bali. L'hôpital de l'Indonésie en Mrauku ou Rakhine en Myanmar porte un message de paix et l'unité de divers groupes ethniques au Myanmar. Le comité médical d'urgence le voit lors de la pose de la première pierre de RSI récemment. Un millier de personnes se sont rencontrées dans RSI lors de cet événement. Ils étaient de différentes ethnies et religions, sont unis pacifiquement. C'est ce qu'a déclaré le gérant de l'hôpital de l'Indonésie, Nur Ihwan Abadi, au Myanmar. Il est très visible dans mes chances de paix du programme de développement de RSI. Il a expliqué que le développement du RSI à Rakhine faisait partie de la diplomatie humanitaire qui a été faite par Mercy depuis la construction de RSI à Gaza en Palestine. L'Indonésie cible des tourismes de secteur du tourisme halal à travers le 8e Salon international de l'industrie halal Moscou Halal Expo 2017, tenu à Moscou récemment. La destination touristique halal promue au public russe sont entre autres la voile de Sabang et le festival de Rapai à Aceh, tour de shopping et attractions touristiques de Mille Îles à Jakarta, ainsi que des excursions à la première plage halal en Indonésie, située à Banyuwangi, Java Est. C'est ce qu'a affirmé la première secrétaire chargée des informations socioculturelles de l'ambassade d'Indonésie à Moscou, Injai Diana, à Antara, Londres, lundi. Le chef d'équipe pour accélérer le développement du tourisme halal du ministère du Tourisme de l'Indonésie, M. Rianto Sofian, dans son discours lors de l'ouverture de l'exposition, a déclaré que le développement de l'industrie halal n'est plus concentré sur les produits alimentaires, mais il a évolué dans le secteur bancaire et tourisme. Rianto a déclaré que l'Indonésie est prête à accueillir l'arrivée des touristes musulmans russes et d'autres touristes avec une variété de destinations touristiques attrayantes, ayant du tourisme nautique, des plages, la nature, l'art, la culture, la cuisine, y compris le tourisme halal. L'Indonésie et la Russie ont un grand potentiel pour le tourisme halal. Pour cela, il faut une coopération concrète entre les hommes d'affaires de l'industrie du tourisme halal des deux pays. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez variété, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans le magazine culturel. Pour aujourd'hui, nous vous présentons l'un des sites touristiques à Java Central. Alors, soyez toujours avec nous, la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, la province de Java Central est l'une des provinces qui a un beau panorama naturel. Aujourd'hui, il existe de nombreux objets de tourisme naturel qui sont bien connus. Mais il y a beaucoup de destinations touristiques intéressantes qui sont cachées et si intéressantes. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter l'une des destinations touristiques dans le centre de Java, à savoir le tourisme naturel du village de Tempur. L'emplacement du tourisme naturel du village de Tempur est très caché. C'est parce que l'emplacement de cette destination touristique est au milieu d'une rangée de sept petites montagnes qui est incluse dans le mont Muria et le village est caché. Pas étonnant qu'il soit difficile de trouver le signal d'internet. Si vous aimez profiter des vacances sans interférence des étrangères, ce village touristique est adapté à votre choix. Le village touristique de Tempur est une destination touristique assez complète. Depuis l'entrée du village, vous serez présenté par les très beaux paysages. À cet endroit, il y a un chemin de terrasserie qui est divisé par le flux de la rivière Roseuse d'Ombo. Cet endroit est tellement exotique et devient l'un des endroits préférés des touristes pour selfie. En outre, pour les touristes qui aiment grimper, au village de Tempur, il y a deux temples sur la colline, à savoir les temples de Bubra et d'Angin. Les deux temples sont sur le même chemin avec une destination d'environ 2 heures à pied de la porte d'entrée. La route vers ce temple ne vous rendra pas fatigué car vous passerez devant le beau paysage de Kafeyer. Le premier voyage, vous arrivez au temple de Bubra. Après cela, continuez la montée d'environ 30 minutes et puis vous arrivez au temple d'Angin. Le village touristique de Tempur est situé dans la sous-communauté de Kling, la région de Jepara en province de Java Central. La distance du village de la ville de Jepara est d'environ 50 km. Cet objet touristique est également complété avec des installations complémentaires. En plus de la salle de repos, l'endroit fournit également un lieu de culte pour les musulmans sous la forme d'une petite cabane. Pour les touristes qui aiment le selfie, cette destination offre un bel endroit, à savoir un poste de visualisation sur une haute colline qui présente un paysage magnifique et exotique de Jepara. Serviteurs et serviteurs, c'était le magazine culture pour ce soir avec le titre « Le tourisme naturel du village de Tempur ». Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ». «
Chers auditeurs et auditrices, où que vous soyez, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est hobby olahraga, ou en français, le passe-temps sportif. Restez avec nous sur voi.co.id. Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer lentement deux fois par mot et vous le répéterez après. Olahraga. Olahraga. En français, le sport. Suka. Suka. En français, aimer. Setiap pagi. Setiap pagi. En français, chaque matin. Jogging. Jogging. En français, faire du jogging. Tetap sehat. Tetap sehat. En français, rester en bonne santé. Berenang. Berenang. En français, nager. Main basket. Main basket. En français, jouer au basket. Bersepeda. Bersepeda. En français, faire du vélo. Tidak sibuk. Tidak sibuk. En français, ne pas être occupé. Main bulu tangkis. Main bulu tangkis. En français, jouer au badminton. Punya banyak waktu. Punya banyak waktu. En français, avoir le temps. Main bola. Main bola. En français, jouer au football. Teman-teman. Teman-teman. En français, les amis. Bien, maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation entre Robby et Andy. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez donc la suivre après moi. Kamu suka berolahraga, Andy? Kamu suka berolahraga, Andy? En français, tu aimes le sport, Andy? Ya, setiap pagi saya jogging agar tetap sehat. Ya, setiap pagi saya jogging agar tetap sehat. En français, oui, je fais du jogging chaque matin pour rester en bonne santé. Saya suka sekali berenang dan bermain basket. Saya suka sekali berenang dan bermain basket. En français, moi j'aime bien nager et jouer au basket. Saya lebih suka bermain sepeda daripada bermain basket. Saya lebih suka bermain sepeda daripada bermain basket. En français, je préfère faire du vélo que jouer au basket. Lalu ketika tidak sibuk, saya bermain bulu tangkis. Lalu, ketika tidak sibuk, saya bermain bulu tangkis. En français, et puis quand je suis pas très occupé, je joue au badminton. Saat saya punya banyak waktu, saya bermain bola bersama teman-teman. Saat saya punya banyak waktu, saya bermain bola bersama teman-teman. Et moi, quand je suis pas occupé, je joue au football avec des amis. Baiklah, hobi kita sama-sama berolahraga. Baiklah, hobi kita sama-sama berolahraga. En français, eh bien, nous aimons le sport. Voilà cette édition du programme Apprendre l'indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Sampai jumpa.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers auditeurs et auditrices de RRI Service International, la voix de l'Indonésie, où que vous soyez, on se retrouve encore dans la rubrique Magazine Musical, un programme qui vous présente les chansons indonésiennes traditionnelles et modernes. Dans cette édition, nous vous présentons des chansons présentées par Dewik. Pour commencer notre rencontre aujourd'hui, écoutons une chanson dont le titre est Le Bidrimu. Restez toujours avec nous dans les ondes courtes 9525 kHz ou par audio streaming de voi.co.id ou par l'application RRI Play dans votre smartphone. Alors, bonne écoute.
Andai aku mampu membalasmu semua perbuatanmu itu. Pasti dari dulu tak akan ku rasa pahit yang ku terima. Aku memilihmu jadi kekasihku, tapi yang terjadi kau sakiti aku. Sahabat, ingin ku bawa hancur bersamaku. Dunia sedang tak bersahabat. Akan ku dapat lebih darimu, lebih darimu. Tapi yang terjadi, kau sakiti aku. Dunia sedang tak bersahabat, ingin ku bawa hancur bersamaku. Dunia sedang tak bersahabat, akan ku dapat lebih darimu, ah, lebih darimu.
Chers amis, voilà la chanson Le Bidarimu par Dewik. Généralement, les chanteurs sont connus par leurs performances sur les scènes. Dewik, en plus de chanter, elle crée aussi des chansons avec lesquelles d'autres chanteurs indonésiens deviennent célèbres. Elle est donc connue comme une compositrice indonésienne pleine de talent. Par exemple, elle a créé une chanson intitulée Bukan Permainan qui est présentée par Gita Gutawa et une autre avec le titre 50 Tahun Lagi, popularisée par un groupe qui s'appelle Warna, et puis Sani, chantée par Bunga Citra Lestari. Il existe aussi d'autres chanteurs indonésiens célèbres dont la popularité a augmenté grâce aux chansons écrites par Dewik, comme Rio Febrian, Audi et Pinkan Mambo. Chers amis, écoutons une autre chanson dont le titre est Kogitusi, toujours par Dewik. Bonne écoute.
Ada satu hal yang tidak kusukai dari kamu dan paling sering kau ulangi. Kadang-kadang bikin ku ill-feel, kadang-kadang bikin ku ill-feel.
Tiap hari terus hanya mendengar kau mengeluh dan mengeluh. Kadang-kadang bikin ku ill-feel, kadang-kadang bikin ku ill-feel. Ku hanya beritahu
apa kamu bisa lebih rileks saja daripada kamu mengeluh dan mengeluh?
Tenang saja, tenang, aku masih dengan kamu.
Tiap hari terus hanya mendengar kau mengeluh dan mengeluh. Kadang-kadang bikin ku ill feel, kadang-kadang bikin ku ill feel.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio Republik Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi. Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 lo. Lama-lama aku bisa jadi gila. Baby, aku inginkan putus. Baby, aku tak sanggup lagi denganmu.
Maumu begini, mauku begitu, gak pernah ketemu, gak pernah ketemu. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi.
Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 lo. Lama-lama aku bisa jadi gila.
C'était des chansons indonésiennes de la voix de l'Indonésie. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.